Chapitre 9e. Affaires d'État. Trump avait réuni son conseil, qui était aussi à court que lui-même, car il se composait d'hommes qui le valaient pour l'instruction, l'intelligence et la naissance. Osius, cuisinier espagnol affranchi, était en grande faveur auprès du consul. Mais Trump était mécontent de lui en ce moment, parce qu'Osius se refusait opiniâtrement à remplacer Léo à la tête des troupes chargées d'apaiser le soulèvement causé par Tribigild, ou du moins de le restreindre à l'Asie mineure. C'est au consul qu'il appartient de commander l'armée, soutenait Osius. Telle a toujours été la coutume de la République romaine jusqu'à Boton et Rufin, jusqu'à Promotus et Timasius. Le titre de consul et celui de général vont ensemble. C'est la sagesse et l'habileté réunies dans une seule tête. Il serait maladroit, Eutrope, dans une circonstance aussi délicate, de laisser s'élever des doutes sur votre habileté. « Sottise, qui oserait parler ainsi de moi ?» répondit Eutrope avec humeur. « Dans le temps critique où nous sommes, je ne dois pas abandonner la personne sacrée de César Auguste. Cela tombe sous le sens. Il n'y a qu'un esprit borné comme le vôtre, Osius, qui puisse émettre un pareil avis. Mais est-il nécessaire de donner à Léo un successeur qui parte d'ici ?» demanda Marcellus, autre favori d'Eutrope. « Ne pourrait-on pas laisser tranquillement les troupes sous les ordres de généraux subalternes ou nommer l'un d'eux général en chef? Ce serait vraiment le parti le plus simple, si l'on avait à craindre l'esprit de sédition, aussitôt qu'un seul homme a le commandement de toute l'armée, » murmura Eutrope. « Un commandant-chef doit être un homme tout à fait sûr. En connaissez-vous un autre que vous-même ?»« Une idée, » fit Osius, « si on cachait ici la mort de Léo, et que donna aux troupes l'ordre d'empêcher à tout prix Tribigild de passer l'Hellespont. » Donner cet ordre serait la chose la plus facile, remarqua ironiquement Marcellus. Mais qui veillera à ce que les troupes l'exécutent, sans commandant en chef? Je serais donc d'avis qu'on taille ici la chose secrète, dit Osius. Auprès de l'empereur, c'est chose aisée. Il suffit de ne lui en rien dire, et de traiter d'imposture toute nouvelle qui pourrait lui en parvenir. Comme Eudoxia boude, personne ne lui apprendra la vérité. Mais le peuple, s'écria Eutrope. Tous les jours, des centaines de barques viennent de la côte d'Ionie où la mort de Léo est sans aucun doute connue de tout le monde. Comment empêcher que la nouvelle se répande dans la ville et ne jette l'effroi parmi la population? Si l'on pouvait envoyer tout de suite un commandant-chef à l'armée, ce serait le meilleur moyen de tranquilliser les esprits, d'autant plus que l'opinion publique n'était pas favorable à notre excellent Léo. Je dirais même qu'on avait pour lui du mépris. Rien ne serait plus facile que de gagner la faveur du peuple par quelques rencontres heureuses. « Mais vous tous, poltrons que vous êtes, vous craignez Tribigild, et la vie des camps, et la bataille, et vous préférez livrer l'Empire à l'agitation et à la sédition. »« Nous suivons votre exemple, honorable consul, » dit Marcellus avec un profond sérieux. « Il faut, » dit Osius, « occuper le peuple d'autres idées. Il faut le divertir par un nouveau spectacle quelconque, au cirque ou au théâtre. » De cette manière, il oubliera avec plaisir, Léo, Tribigild, et tout ce qu'il vous plaira. Les jeux coûtent de l'argent, et le trésor est vide, murmura Eutrope. Pas tout à fait vide. J'ai parlé à Eustate. Il m'a confié qu'il avait acheté le gouvernement de la province de Lydie au prix de sa magnifique terre de Cizig. Une terre en Ionie n'a pour ainsi dire aucune valeur en ce moment, répondit Eutrope négligemment. C'est vrai s'il s'agissait de la vendre, mais vous pouvez l'engager. Il y a ici des Juifs fort riches d'Alexandrie. Engagez-leur ce bien. Vous le reprendrez plus tard, quand ils s'en retourneront chez eux, et quand ils se seront tellement engraissés d'or ici, à force d'usure et de coquinerie, que vous n'aurez pas besoin de racheter le gage. » Eutrope goûta fort la proposition et résolut en lui-même de la mettre à exécution, non pas pour le trésor public, mais pour sa cassette particulière. « Je ne puis, répondit-il, imaginez faire exécuter si rapidement un nouveau spectacle attrayant. Il faut des préparatifs, et le temps presse. « Je sais quelque chose qui demande peu de préparatifs et qui sera très attrayant, » fit l'ex-cuisinier. « Auriez-vous trouvé un nouveau plat dans lequel il n'entre que de l'air ?» demanda le consul. « Voici mon plan. Je rassemblerai dans le grand cirque toutes les danseuses publiques de la ville et leur laisserai danser tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles veulent. Le peuple afflue au cirque, il devient fou de joie et ne parle plus d'autre chose. « Combien de danseuses compte la ville ?» demanda Eutrope. « À Rome, il y en a 3000, » dit Marcellus. Un de mes amis qui en vient m'a donné leur nombre exact. Nous devons en avoir ici environ 2000.
Quoi ? 2000 seulement ? S'écria Trope exaspéré.
Sommes-nous à une telle distance de Rome ? A-t-on ici autant d'indifférence pour cette classe éminemment utile de créatures qui, par leurs chants et leurs gestes, savent si bien charmer et amuser l'humanité ? Rome nous surpasserait d'un tiers, quelle honte !
Peut-être Marcellus est-il mal renseigné ?
Dit Osius d'un ton adoucissant.
Mais qu'il y en ait seulement 2000, et que vous les rassembliez toutes dans le grand cirque, sans oublier les joueuses de flûte et de cithare, sur ma parole, le cirque est plein à déborder, comme au plus beau jour des courses de chars, car ce serait quelque chose de tout à fait nouveau.
Et ce ne serait vraiment pas laid, ajouta Eutrope. Seulement, en annonçant ce spectacle, il faudrait gazer les expressions.
Vous craignez que le préfet de Constantinople ne réclame au nom de la morale publique outragée ?
Je ne crois pas, quand je l'aurai informé de mes vues. Il ne dédaignera certainement pas de se trouver parmi les spectateurs, car les fêtes qu'il donne sont toujours égayées par de joyeuses bandes de danseuses et de joueuses de flûte, et des plus décolletées.
Mais si Bouche d'Or l'apprend, s'il monte en chair, s'il avertit, s'il fanatise le peuple, s'il révèle les affaires d'Ionie,
cela pourrait avoir des suites fâcheuses.
Les trois quarts du public courraient malgré cela au cirque, fit Osius d'un ton convaincu.
Nous essaierons, dit Eutrope. On peut bien annoncer brièvement un nouveau spectacle. Cela piquera peut-être la curiosité plus que tout le reste.
Et l'attention se détournera de Trébiguilde et du théâtre de la guerre pour se concentrer sur le cirque.
Pendant que Eutrope faisait son plan, d'autres combinaient le leur. À une heure très matinale, Gainas se fit annoncer chez l'empereur. Arcadius ne fut pas peu surpris de voir son général à Constantinople et sous l'habit d'un simple soldat. Avant qu'il eût eu le temps de dire un seul mot de son étonnement, il fut plus étonné encore d'entendre Gainas lui parler avec le plus grand abattement.
« Salut, ô invincible empereur, dit le guerrier un genou en terre, et puissiez-vous l'être toujours.
M'apportez-vous de tristes nouvelles de la Thrace et de la Thessalie ?
Les hordes sauvages d'Éens se ruent-elles sur nos frontières ?
Dit Arcadius du ton d'une personne habituée à ces sortes de nouvelles.
« La Thrace et la Thessalie sont tranquilles, car je suis là, répondit Gainas,
et ce n'est pas par les Huns que votre trône sera bientôt menacé.
Par Trébiguilde alors ? Demanda l'empereur avec précipitation.
Par Trébiguilde, et très sérieusement.
Léo est-il vaincu ?
Elpidius me parlait de mauvais bruits qui courent, mais depuis lors je n'ai rien entendu dire de Lyonie, parlez donc.
Votre armée d'Ionie est battue, taillée en pièces, anéantie, Léo est mort.
Trébiguilde est au bord de l'Hellespont et se prépare à prendre la mer pour venir à Constantinople.
Et vous êtes ici ? S'écria l'empereur. Vous êtes chargé de protéger avec votre armée la côte de Thrace et Constantinople contre l'invasion de Trébiguilde. Et c'est dans un moment si difficile que vous osez quitter votre armée et paraître ici.
Je l'ai osé, répondit froidement Gainas,
car il faut enfin qu'ici on entende une fois la vérité. Pour éviter toute remarque inutile, le général est venu à vous sous l'habit du simple soldat.
Voyons ce que vous appelez la vérité,
dit Arcadius avec saisissement.
Trébiguilde est mon compatriote et a été mon ami. Il a encore confiance en moi.
Il m'a fait savoir par un courrier secret et sûr qu'il est prêt à faire la paix avec vous et à faire entrer dans l'obéissance toute la colonie gothique qui en ce moment se soulève en Phrygie, mais à une condition, à une seule.
Et laquelle ?
La tête d'Eutrope, dit Gainas avec un froid glacial.
L'empereur recula d'horreur.
La tête de mon plus fidèle et mon plus habile serviteur ? Je le sacrifierais à la haine ou à l'envie d'un chef de barbare ?
Est-ce montrer de l'habileté que d'envoyer un grec timide et lâche combattre un barbare audacieux ?
Demanda Gainas d'un ton tranchant.
Et sa fidélité est-elle plus réelle ?
Le serviteur fidèle de l'empereur est celui qui ne peut supporter l'avilissement de l'empire et qui oppose une barrière à sa décadence. L'oppression corruptrice d'Eutrope, les exactions iniques d'Eutrope, appellent la malédiction de tout l'empire d'Orient sur votre sceptre. Est-ce là de la fidélité ?
Il m'est personnellement fidèle, balbutia Arcadius.
Comme un chien, qu'il est !
Dit Gainas avec mépris, et dont on ne doit faire aucun compte quand il s'agit de la sécurité du trône, de la paix de l'empire et du bonheur de vos peuples.
Vous assurez, c'est bien précieux, noble Gainas, et vous conclurez la paix avec Trébiguilde après que vous l'aurez battu.
Dit Arcadius d'un ton suppliant.
Non, sire, je ne ferai pas cela.
répondit Gainas, toujours du même ton sec et glacial. Est-ce que les Goths doivent s'entretuer afin que Trope ait tout le loisir de ruiner l'Empire? Non, cela ne sera pas. Que sa tête coupable et exécrée tombe. Et la Phrygie rentre dans l'ordre. Car ce n'est pas contre vous, c'est contre l'intolérable pression de Trope qu'elle est soulevée. Il suce les campagnes, les villes, les provinces entières, en donnant les charges de proconsul aux plus offrants. Et ses gouverneurs savent qu'ils peuvent tout faire impunément. Un pareil état de choses, une situation aussi dégradante et aussi misérable doit-elle se perpétuer? Pouvez-vous le désirer, vous qui êtes l'empereur? Non, certainement non. Le droit et la justice doivent régner sur mes peuples. Montrez-le donc et faites-en preuve en châtiant comme il le mérite, le plus grand criminel de vos vastes états. Si la tête de Trope tombe, ce sera pour nous un gage de vos sentiments souverains et nous reprendrons courage et confiance.
Impossible, soupira Arcadius, cela ne peut pas être. Trope a des ennemis, on le calomnie, je ne puis croire tout le mal que vous me dites de lui.
Une agitation inaccoutumée se fit remarquer dans les appartements voisins. Gainas écouta un instant.
Vous ne voulez pas me croire, reprit-il.
Fort bien. Une autre bouche aura plus d'éloquence que celle d'un grossier barbare.
Que voulez-vous dire? Qu'y a-t-il donc?
Demanda Arcadius, tout étourdi de ce mouvement extraordinaire.
Eudoxia entra.
Un rayon de joie illumina tout d'un coup le pâle visage de l'empereur.
Eudoxia, s'écria-t-il, c'est vous, et avec les enfants? Oh, soyez la bienvenue, chère Eudoxia. Pourquoi pleurez-vous? Oh, ne pleurez pas.
Eudoxia était debout, pâle et les yeux pleins de larmes. Elle portait au bras sa plus jeune fille, Pulchérie, et tenait par la main la petite Flacilla qui avait 3 ans. Elle s'agenouilla devant Arcadius.
« Vous ne voulez pas que je pleure?
Eh bien, mon auguste maître, il dépend de vous de sécher mes larmes. »«
Et comment, Eudoxia?
Comment?
Parlez, que désirez-vous? Vous êtes exaucé d'avance. »«
Eutrope doit tomber, » dit-elle d'un ton résolu.
« Me croirez-vous maintenant, sire ?»
dit Gainas d'un ton de reproche.
« Laissez-nous, »
dit Arcadius.
« Non, qu'il reste, »
fit Eudoxia d'un ton suppliant. « Il doit tout entendre, car il peut confirmer tout ce que j'ai à dire contre Trope. »«
Oui, le malheureux Trope.
Gainas vient de me raconter tant de méchanceté sur son compte, mais en quoi cela vous afflige-t-il? Il ne vous a certainement pas manqué, ou au moins pas au point de vous mettre dans cet état. »«
Comment ?»
s'écria Eudoxia. « L'abaissement de l'Empire dont mon époux est le maître et le souverain ? Les malédictions du peuple qui tombent sur sa tête et celles de mes innocents enfants ne doivent pas m'attrister, m'ébranler. Je dois voir tous les jours comment un misérable se joue de la couronne qui a été portée par le grand Théodose et que mon époux porte aujourd'hui, sans verser des larmes de sang sur son avilissement. Je dois être témoin de la conduite indigne de cet homme de rien envers les personnes les plus respectables, sans être soulevé. Il enlève à l'Église le pieux et traditionnel droit d'asile, et cause par là au patriarche et à tous les bons chrétiens la plus vive douleur, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait dans tout l'Empire un seul endroit à l'abri de ces violences. Il persécute des femmes de la plus haute naissance, des femmes pleines de vertus comme Pentadia et Olympia, pour s'emparer de leur fortune. Il a un tarif pour chaque charge, pour chaque emploi, et celui qui paye le plus est à ses yeux le plus digne et le plus capable. Et tout cela doit me laisser indifférente.
Eudoxia s'est élevée et se tenait debout devant l'empereur. Elle était vraiment magnifique en ce moment avec toute sa beauté, avec sa colère, avec ses larmes.
« Ne pleurez pas, Eudoxia, » dit Arcadius ébranlé. « Remettez-vous, ma chère, » ajouta-t-il d'un ton ému et suppliant.
« Il en sera autrement à l'avenir, mais calmez-vous. »«
Non, je ne veux pas me calmer. Assez longtemps je me suis tu. Assez longtemps j'ai souffert en gardant le silence. Maintenant je veux parler. » Le misérable met une barrière entre mon impérial époux et moi.
Vous vous trompez, Eudoxia. Sur ce point, vous vous trompez assurément,
fit Arcadius. Croyez-vous que je ne sache pas pourquoi je ne suis pas Augusta? Demanda-t-elle lentement. Arcadius, embarrassé, se tut.
Il met une barrière entre vous et moi, reprit-elle. Votre silence le prouve, et cela ne doit ni m'attrister ni m'offenser.
Oh, Arcadius, alors je ne serai pas femme. Vous m'auriez depuis longtemps nommé Augusta. Depuis longtemps, votre épouse serait impératrice et jouirait de la plénitude de la dignité impériale. Mais Eutrope ne le veut pas.
Il a peur de moi, il craint que je ne prenne de l'influence, il craint que je ne voie clair dans ses manœuvres ténébreuses. Voilà pourquoi il me tient à l'écart.
Aujourd'hui même, je vous nomme Augusta, dit Arcadius toujours en proie à l'émotion.
Je ne vous en remercierai avec joie, mon seigneur et mon empereur, qu'après que Trope aura quitté l'Hebdomon, la ville et, si c'est possible, l'Empire. Nous ne pouvons plus rester ensemble dans ce palais à côté de vous. Il faut qu'il éprouve lui-même ce dont il m'a menacé.
Vous menacez ? Que dites-vous, Eudoxia ? S'écria Arcadius tout hors de lui.
Qui donc ose menacer mon impératrice ? Et comment ? Et de quoi ?
Oh, Eutrope ose tout, impunément, dit-elle avec amertume.
C'est trop. D'où lui vient tant d'audace ?
Je voulais passer cela sous silence. Mes lèvres se refusaient à le dire, comme si elles craignaient l'approche d'un charbon ardent. Aussi, je vous ai prié de m'accorder quelques jours de solitude complète. J'avais besoin de me remettre et de me recueillir pour dévorer en silence cet outrage inouï.
« Que vous a-t-il fait ? Parlez !»
s'écria Arcadius presque à bout de patience.
« J'aime les pierres fines et les jolies parures, je l'avoue.
C'est une faiblesse féminine à laquelle vous m'avez habitué. Eutrope le savait.
Pour se rendre agréable à mes yeux, il m'apportait souvent de beaux diamants.
Il s'imaginait peut-être que j'étais un enfant qu'on amuse avec des jouets.
Il y a quelques jours, il me présenta des diamants qui étaient vraiment magnifiques.
Je lui dis que je les ferais monter en diadème que je porterais comme impératrice. Il me répondit
« La mère d'un héritier du trône doit seule attendre ce titre. »«
Non, m'écriai-je, il doit appartenir à l'épouse de l'empereur. »«
Vous disiez vrai, Eudoxia ?»
fit Arcadius en l'interrompant.
« Avant tout, à l'épouse de l'empereur. »
Mais lui, l'insolent, osa me répondre
« C'est par moi seul. »
que vous êtes l'épouse de l'empereur, c'est par moi seul que vous pouvez être Augusta.
Si cela ne vous plaît pas, songez que je vous ai élevé au trône et que je puis vous en précipiter.
Voilà ce qu'il m'a dit, voilà comment un Eutrope a osé parler à Eudoxia, à votre épouse, à la mère de vos enfants. Et maintenant, je vous le demande, sire, dois-je laisser passer impuni un pareil outrage ?
Pendant ce discours, Eudoxia était devenue plus pâle.
Ses lèvres tremblaient au point qu'elle avait peine à parler. Les mots sortaient étranglés de sa bouche. À ce moment, ses forces l'abandonnèrent tout à coup. Il tomba sur un siège en versant un torrent de larmes. En voyant pleurer leur mère, les enfants instinctivement se mirent à pleurer et à gémir. Arcadius était tout hors de lui devant la douleur de sa chère Eudoxia.
« Le misérable, s'écria-t-il, il faut qu'il vienne. Il sera puni comme vous le demandez. » Et comme il ne le mérite que trop, il sera pour toujours chassé de notre présence et dépouillé de tous ses titres, emplois, dignités et trésors. Il ira finir ces jours-là où il en a exilé de bien meilleurs que lui, en Colchide ou dans les déserts de la Libye.
Salut à vous, ô grand empereur, l'Empire est sauvé, s'écria Gainas triomphant.
Il quitta aussitôt la salle d'audience pour faire appeler sur le champ le consul et pour porter dans le palais et dans toute la ville la joyeuse nouvelle de la chute d'Eutrope. Cette nouvelle fut accueillie avec plus de jubilation que le bruit de 100 victoires et se répandit dans la population avec la rapidité de l'éclair. Ce qu'aucun raisonnement, aucune remontrance n'aurait pu arracher à Arcadius, les larmes d'Eudoxia l'obtinrent sans peine, l'empereur abandonna son favori.